Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Je vous ai raconté il n'y a pas longtemps comment l'homme avait fait ses premiers pas dans l'espace avec le vol de Youri Gagarin. J'aimerais aujourd'hui revivre avec vous la deuxième grande étape de la conquête spatiale, les premiers pas de l'homme sur la Lune. On est bien sûr dans un contexte un peu particulier, celle de la course à l'espace. La guerre froide bat son plein entre les États-Unis et l'Union soviétique, deux superpuissances de l'époque. Celle-ci se traduit par des affrontements militaires directs, comme la guerre de Corée par exemple, mais également par une course aux armements. L'Union soviétique prend de l'avance en mettant au point un missile balistique intercontinental, la R-7 Semyorka, ancêtre direct de la fusée Soyouz. La R-7 est une fusée particulièrement puissante, car les ingénieurs soviétiques ne sont pas parvenus à miniaturiser la bombe nucléaire qu'elle emporte. Elle doit donc porter beaucoup de poids. Le responsable du programme, Sergueï Korolev, parvient à convaincre les dirigeants soviétiques d'utiliser cette fusée comme lanceur du premier satellite artificiel. La mise en orbite de Spoutnik, le 4 octobre 1957, a un retentissement mondial. C'est une énorme surprise et un choc pour les responsables et l'opinion publique américaine, jusqu'alors persuadés de leur supériorité technique. Lorsqu'il arrive au pouvoir, en janvier 61, le président Kennedy est, comme son prédécesseur, assez peu enclin à donner des moyens importants au programme spatial civil. Mais le lancement du premier homme dans l'espace par les soviétiques, en avril de la même année, le convainc de la nécessité de disposer d'un programme spatial ambitieux pour récupérer le prestige international perdu. John Kennedy demande à son vice-président, Lyndon Johnson, de lui désigner un objectif qui permettrait aux États-Unis de reprendre le leadership à l'URSS. Parmi les pistes évoquées figure la création d'un laboratoire spatial dans l'espace, un survol lunaire. Le vice-président, qui est un ardent partisan du programme spatial, lui répond que la recherche et l'industrie américaine sont capables d'envoyer une mission habitée vers la Lune. Le 25 mai 61, le président annonce donc devant le Congrès des États-Unis, lors du Special Message to the Congress on Urgent National Needs, le lancement d'un programme qui doit amener les astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. Il confirme sa décision au cours d'un autre discours resté célèbre, « We chose to go to the moon », en 1962. Sans attendre la mise au point d'un vaisseau très sophistiqué prévu pour la mission lunaire, les responsables de la NASA lancent plusieurs programmes pour préparer des missions Apollo. Maîtrise du rendez-vous spatial, étude de l'impact de l'impesanteur sur le corps humain, technique permettant de travailler dans l'espace lors des sorties, étude de la géographie lunaire pour trouver un bon site d'alunissage, mise au point d'un système de communication, les besoins sont très nombreux. Alors j'aurai pas le temps de vous raconter toutes les missions préparatoires, ni même les 10 premières missions Apollo, alors je vous propose de passer directement à Apollo 11, celle qui va poser des hommes sur la Lune. Apollo 11, c'est la première mission Apollo à poser des hommes sur le sol lunaire, et même si une partie de son déroulement fait l'objet d'une répétition lors de Apollo 10, des phases cruciales comme l'atterrissage, enfin l'alunissage, et le décollage de la Lune, ainsi que l'utilisation des combinaisons spatiales sur le sol lunaire, n'ont encore jamais été réalisées et présentent des risques importants. Dans ce contexte, la recherche scientifique joue un rôle secondaire dans la mission. L'équipage d'Apollo 11 a pour objectif principal de réaliser une sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire et de revenir sain et sauf sur la Terre. Bon, passons maintenant au jour J. Après avoir pris un petit déjeuner avec Dex Layton et l'équipage de réserve, les astronautes enfilent leur combinaison spatiale et commencent à respirer de l'oxygène pur. À 6h30, ils se dirigent vers le complexe de lancement. Les astronautes s'installent. L'équipe de fermeture scelle l'écoutille. La cabine est purgée, pressurisée. L'équipe de fermeture quitte ensuite le complexe du lancement environ une heure avant le départ. Le compte à rebours s'automatise à 3 minutes 20 secondes avant le lancement. Plus de 450 personnes se trouvent aux consoles dans la salle de tir. Le 16 juillet 1969, les foules ont fait le déplacement pour assister au lancement des premiers hommes à tenter de débarquer sur la Lune. On estime à 1 million le nombre de spectateurs qui se sont positionnés sur les autoroutes et les plages situées à proximité du site de lancement. Il y a environ 3500 représentants des médias qui sont présents, les deux tiers venant des États-Unis, mais le reste venant de 55 autres pays. Sont en particulier sur place des centaines d'équipes de télévision. Il est en effet prévu que le lancement soit retransmis dans 33 pays. Plus tard, on a estimé le nombre de téléspectateurs à 25 millions rien qu'aux États-Unis. Des millions d'autres personnes dans le monde écoutent l'émission à la radio. Le président Richard Nixon regarde le lancement depuis son bureau à la Maison-Blanche. Depuis le complexe de lancement à Cap Canaveral, le décollage intervient à l'heure prévue, 13h32. Lourd de plus de 3000 tonnes, le lanceur Saturn V s'élève lentement. 13 secondes plus tard, il commence à prendre son azimut de vol. 13 secondes plus tard, il commence à prendre son azimut de vol. L'arrêt des moteurs du premier étage intervient 2 minutes 42 après le décollage. Les moteurs du deuxième étage sont alors allumés. Enfin, après 9 minutes et 8 secondes, le troisième étage arrive à son tour en service. 12 minutes après son lancement, Apollo 11 et le troisième étage sont placés sur une orbite terrestre circulaire. Le vaisseau Apollo circule sur cette orbite de parking en attendant que son positionnement relatif par rapport à la Lune soit optimal. Durant cette phase de vol non propulsé, l'équipage vérifie les systèmes, s'assure que tout permette la poursuite de la mission. 2h30 plus tard, conformément au planning, et alors que le vaisseau Apollo a effectué une révolution et demie autour de la Terre, la manœuvre dite d'injection translunaire est effectuée. Le moteur de l'étage est allumé une deuxième fois pendant 347 secondes. La poussée augmente la vitesse et donne une impulsion suffisante pour que l'ensemble puisse franchir les 400 000 km qui le séparent de la Lune. La manœuvre donne une forme elliptique très allongée à l'orbite et l'apogée se situe désormais au-delà de la Lune. La direction de la poussée a été soigneusement calculée pour que le vaisseau passe devant la Lune en prenant en compte le fait qu'elle se sera déplacée de 250 000 km entre-temps. Environ une demi-heure plus tard, Michael Collins déclenche la séparation du module de service et du reste du train spatial. Lui, il pivote à 180 degrés pour venir s'amarrer au module lunaire, surnommé Eagle, qui est dans le carénage solaire. On s'en fout. Après avoir vérifié l'arrimage des deux vaisseaux, pressurisé le module lunaire, Environ une demi-heure plus tard, Michael Collins déclenche la séparation du module de service et du reste du train spatial, puis éloigne le module de quelques mètres. Il pivote à 180 degrés pour pouvoir s'arrimer au module lunaire, que l'on appelle Eagle. Après avoir vérifié l'arrimage des deux vaisseaux, les astronautes déclenchent par pyrotechnie les ressorts qui vont séparer le module lunaire du dernier étage de Saturne. Avec un effet de fronde produit par son passage près de la Lune, le troisième étage se place en orbite autour du Soleil, où il se trouve encore actuellement. Aldrin et Armstrong pénètrent alors dans le module lunaire, puis effectuent les dernières vérifications avant leur descente vers la Lune. 5 heures plus tard, Eagle se sépare du vaisseau Apollo. Collins, resté à bord de Columbia, inspecte par le hublot le module lunaire lorsqu'il pivote devant lui, pour s'assurer que l'engin spatial ne présente aucun dommage. Alors que la descente est entamée, Armstrong et Aldrin constatent que les points remarquables au niveau de la surface de la Lune, qui servent de point de repère, défilent sous eux avec 2 à 3 secondes d'avance par rapport à ce qui était prévu. La trajectoire du module lunaire ne suit pas exactement ce qui était programmé. Ils vont atterrir à plusieurs kilomètres à l'ouest de la cible. 5 minutes après le début de la défense, alors que Eagle se trouve 1800 mètres au-dessus de la surface de la Lune, l'ordinateur de bord se met à émettre des alarmes 1202. Ce type de message indique que l'ordinateur de bord ne parvient plus à effectuer toutes les tâches qui lui sont assignées, alors qu'il joue un rôle central en effectuant en temps réel tous les calculs permettant de définir la trajectoire, et que donc il pilote les différents moteurs. Le jeune Steve Bales, l'un des programmeurs de l'ordinateur de bord, présent dans le centre de contrôle de Houston, détermine que l'alarme peut être ignorée. Et après 30 longues secondes, Houston confirme à l'équipage que la mission peut se poursuivre. Accaparé par ces alarmes, Armstrong laisse passer le moment où, selon la procédure, il aurait dû effectuer la dernière manœuvre de correction de la trajectoire. Eagle dépasse donc de 7 km le site sélectionné pour l'atterrissage, et il s'approche d'une zone encombrée de rochers. Armstrong n'a pas le temps d'étudier la situation avec Houston, de reconfigurer l'ordinateur de bord. Il prend alors le contrôle manuel du module lunaire pour survoler à l'horizontale le terrain, à la recherche d'un site adapté à l'atterrissage. À Houston, on est inquiet par la durée anormalement longue de l'atterrissage, et l'abandon de la mission est à nouveau envisagé. À la recherche d'une zone non accidentée, Armstrong fait avancer le module lunaire en rasant le sol dans la direction de sa fenêtre afin d'avoir le nuage de poussière derrière lui et de garder la visibilité, pendant qu'Aldrin lui indique l'altitude, la vitesse horizontale et les secondes de carburant restants. Eagle finira par atterrir à 20h17 le dimanche 20 juillet 1969, à 7 km du lieu prévu. À l'origine, il lui restait 98 kg de carburant. Armstrong signale qu'Aldrin a complété la liste de contrôle post-atterrissage avant de répondre au Capcom avec les mots « Houston, base de la tranquillité ici, Eagle a atterri ». Le changement d'indicatif d'Armstrong de Eagle à Tranquility Base souligne aux auditeurs que l'atterrissage est complet et réussi. Duke, le Capcom, bégaye légèrement en répondant pour exprimer leur soulagement au contrôle de la mission. Roger, Twin Tranquility, nous comprenons que vous avez bien atterri. Vous avez ici un groupe de gars sur le point de devenir tout bleu. Nous respirons à nouveau. Merci beaucoup. Malgré le soulagement et l'euphorie de l'événement, Armstrong et Aldrin ne peuvent que brièvement observer la surface lunaire. Dans l'éventualité d'un problème grave, ils doivent en effet se préparer à un décollage immédiat et programmer l'ordinateur de bord pour le rendez-vous en orbite avec Collins, opération qui prend à peu près 2 heures. Le calendrier de la mission prévoit normalement une période de sommeil de 5 heures après l'atterrissage. Mais ils choisissent de commencer les préparatifs de la sortie extravéhiculaire, pensant qu'ils ne pourront pas dormir. La mission Apollo ayant pour principal but la communication, le module lunaire est équipé d'une caméra. Apollo 11 utilise une télévision à balayage lent. C'est incompatible avec la télédiffusion. Elle est donc affichée sur un moniteur spécial et une caméra filme ce moniteur, ce qui réduit considérablement la qualité de l'image. Malgré quelques difficultés techniques et météorologiques, les images fantomatiques en noir et blanc de la première sortie extravéhiculaire lunaire sont reçues et diffusées à au moins 600 millions de personnes sur la Terre. Des copies de cette vidéo au format de diffusion sont... Neil Armstrong effectue le premier pas sur la Lune le 21 juillet 69 à 2h56, devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs écoutant les premières impressions de l'astronaute. Celui-ci, en posant le pied sur le sol lunaire, lance son message célèbre.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Les deux astronautes vont récolter des échantillons de sol lunaire, ils installent des instruments scientifiques, prennent des photos, plantent le drapeau américain et papotent avec le président Nixon. Ils prépareront ensuite leur décollage pour retrouver d'abord Columbia et Collins, restés en orbite lunaire, puis retourner sur Terre. Le trajet retour de la Lune vers la Terre ne durera que 2 jours contre 3 jours à l'aller. Le porte-avions USS Hornet a été sélectionné pour récupérer les astronautes après leur amerrissage. Les 3 astronautes devront ensuite rester 21 jours en quarantaine afin d'éliminer tout risque de maladie extraterrestre. Depuis lors, aucun humain n'est retourné sur la Lune.